Juste un petit mot sur l'origine des prix de mairie.
EMI, E-M-I, trois lettres, pour éducation aux médias et à l'information. Cette expression est plus que jamais dans l'air du temps et on va prendre 20 minutes pour en parler sur RFI.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Salut, c'est Steven Jambot. L'Atelier des médias est à Tours, en France, où s'est tenue cette semaine la 16e édition des Assises internationales du journalisme. L'EMI fait partie de l'ADN des Assises. Des ateliers sont chaque jour consacrés à cette question tout au long de l'événement. Et plusieurs prix sont décernés à des projets qui donnent une place aux citoyens de tous âges dans la production de l'information. À Tours, j'ai tendu mon micro au directeur du CLEMI, le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, qui est chargé de l'éducation aux médias dans le système éducatif français. Sa mission est, je cite, de promouvoir l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure, tout en développant leur sens critique. Bonjour Serge Barbet.
Bonjour Steven Jambot.
On se trouve aux Assises internationales du journalisme de Tours, dont le thème cette année est « Retrouver le goût de l'info ». On est également, alors qu'on enregistre cet entretien, en plein milieu de la semaine pour la presse et les médias dans l'école. Le thème de cette édition 2023, c'est l'info sur tous les fronts. Quelles sont les synergies, les rapports qu'il y a entre ces deux événements concomitants cette année ?
Disons que les Assises à Tours sont devenues ces dernières années un événement incontournable pour les professionnels de la presse et des médias, les professionnels de l'information, et ils organisent au sein de cet événement une journée entière pour les acteurs de l'éducation aux médias et à l'information, avec un jury et des remises de prix pour des acteurs divers et variés, des enseignants, des associations et des médias, tous engagés en éducation aux médias et à l'information. Et donc les prix EMI, éducation aux médias et à l'information des Assises, font partie des étapes importantes en France, dans notre secteur.
Donc c'est un moment clé, privilégié pour se parler. Et pour vous, acteurs du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, justement de rencontrer des gens de différents horizons.
Rencontrer la pluralité des acteurs qui interviennent aujourd'hui dans le champ de l'éducation aux médias et à l'information, et puis aussi faire travailler des élèves de l'Académie d'Orléans-Tours, puisque les Assises accueillent de nombreux élèves aujourd'hui des établissements de cette Académie, avec les coordonnateurs académiques du CLEMI qui interviennent également, et donc tout un travail éducatif est fait autour de ces événements. C'est pas simplement se rencontrer, c'est évidemment se rencontrer, dialoguer, construire ensemble de nouveaux projets, et puis faire de l'éducation aux médias et à l'information sur l'événement lui-même.
Et puis essayer aussi de se mettre à la page, de voir quelles sont les habitudes de consommation de l'information et voir comment eh bien, ces différents acteurs y répondent et s'en emparent.
Il y avait par exemple ce matin un débat sur toute la matinée entre la députée Violette Spielboud qui a fait son rapport de la parlementaire autour des enjeux d'éducation aux médias et à l'information, avec des acteurs représentant les médias, des acteurs représentant le monde de l'éducation, des acteurs associatifs intervenant en éducation aux médias, et on voit effectivement que les Assises chaque année constituent aussi un temps réflexif où on va prendre le recul pour effectivement analyser la situation, analyser la façon dont nous avançons ensemble dans ce terrain de l'éducation aux médias et l'information, et puis tracer des perspectives en associant systématiquement le politique. Et donc, c'est vrai qu'il est de coutume que des ministres viennent aux Assises. La période est un peu agitée, mais en tout cas, la parlementaire autrice, co-rapporteure de ce rapport, était présente ce matin, et les échanges étaient assez vifs et passionnés.
Le ministre français de l'Éducation nationale, il y a quelques jours, dans une interview, a déclaré « Nous souhaitons que tous les élèves, du cycle 2 jusqu'à la terminale, puissent bénéficier d'une action d'éducation aux médias et à l'information au moins une fois par an. » Je poursuis la citation. « Elle sera obligatoire au collège et souhaitée au CM1, CM2 et au lycée. Il peut s'agir d'une visite d'un journaliste dans un établissement ou du déplacement d'une classe dans une rédaction. Nous donnerons une instruction en ce sens aux recteurs pour leur mise en œuvre. » Qu'est-ce que cela signifie et comment percevez-vous ce message ?
Je crois qu'en direction du grand public, cela signifie que nous avons un ministre qui entend renforcer encore la dynamique qui s'est initiée et engagée ces dernières années au sein du système éducatif. Alors, une action, effectivement, pour tous les collégiens, pour des élèves dès les plus bas âges, et puis également pour une majorité de lycéens, c'est déjà effectivement quelque chose qui existe, puisque dans les programmes, l'EMI est aujourd'hui partie prenante, une composante à part entière des programmes. Et donc, c'est de dire, il y a aussi la semaine de la presse et des médias dans l'école, il y a tout un tas de dispositifs incitatifs, mais sans doute faut-il convaincre l'ensemble des personnels de l'éducation nationale que cette action est obligatoire. Il y a ce caractère de dire, tout le monde est concerné et tous les élèves doivent en bénéficier. Alors la formule est un peu restrictive et ambiguë, elle peut paraître un peu restrictive parce qu'on dit une action, tout en sachant que par ailleurs, effectivement, l'EMI aujourd'hui n'est pas optionnelle, elle est obligatoire dans les enseignements.
Mais est-elle une priorité en France dans l'enseignement, l'éducation média et l'information ? En avez-vous le sentiment ?
Oui, vous m'auriez posé la question il y a quelques années, peut-être que j'aurais répondu différemment, mais les choses ont beaucoup évolué. Et elles ont évolué avec une circulaire de janvier 2022 pour la généralisation de l'éducation aux médias et à l'information. Nous avons réorganisé tout le schéma d'organisation des équipes dans chaque académie, où ont été installés des référents et des cellules académiques qui regroupent l'ensemble des acteurs. Et donc, c'est la première année où nous évoluons avec ce nouveau schéma d'organisation, et je dois avouer que c'est une vraie impulsion qui a été donnée. L'idée, c'est que rapport après rapport, l'éducation nationale ne cesse de renforcer aujourd'hui l'éducation aux médias et à l'information au niveau des formations, où nous voyons bien que depuis trois années successives, systématiquement, le CLEMI co-construit avec les directions du ministère les plans nationaux de formation. Dans les plans de formation académique pour la formation continue des enseignants, l'éducation aux médias et à l'information prend une place prépondérante. Les formats de la formation, d'ailleurs, des enseignants aujourd'hui explosent avec le numérique, et nous avons au CLEMI des expériences assez intéressantes dans ce domaine. Et donc, il y a une mobilisation. Cette circulaire vient ajouter l'organisation. Et donc, oui, il y a une mobilisation. Et puis, la mobilisation, c'est l'éducation nationale, mais c'est aussi les acteurs de la presse et des médias. Et pour le coup, nous avons dans ce domaine, tant du côté des médias public que du côté des médias privés, une mobilisation sans précédent sur ce sujet. Donc cela nous force évidemment et nous pousse à être toujours plus performants dans la mise en œuvre de partenariats opérationnels pour montrer tout l'apport et faire bénéficier aux enseignants de tout l'apport de ces professionnels de la presse et des médias.
Serge Barbet, directeur du CLEMI, si je vous comprends, les médias doivent faire preuve de responsabilité. En tout cas, ils ont une responsabilité vis-à-vis notamment des jeunes publics, et ce de deux façons. Ils doivent faire des sujets et des formats pour les jeunes d'abord, parce qu'on a l'impression que les médias ne savent pas trop parler aux jeunes.
Des médias savent très bien parler aux jeunes, d'autres peut-être moins. Il y a une pluralité et donc on ne peut pas faire de généralité. Ça, c'est la première chose à laquelle je tiens, parce que finalement, nos adversaires s'appellent conformisme et généralité. On a une pluralité et nous avons la chance en France d'avoir un paysage audiovisuel, un paysage des acteurs de l'information très diversifié. On a un pôle d'audiovisuel public qui est important. Nous avons des médias privés sur tout type de support, avec aussi une culture de l'innovation pour aller sur les outils numériques et effectivement aujourd'hui répondre à cette exigence démocratique d'éducation aux médias et à l'information qui est réelle. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on voit qu'on ne peut plus être un média dans son temps et dans son public sans intégrer cette dimension citoyenne de l'éducation, puisque nous avons des phénomènes de prolifération de tout type de contenu avec une démultiplication des sources et des supports. Et donc, nous avons besoin aujourd'hui d'avoir des professionnels dont c'est le métier pour diffuser d'abord une information fiable, vérifiée, et puis ensuite pour faire un effort de transparence vis-à-vis des publics pour leur expliquer comment on fabrique une information, comment celle-ci est diffusée, et puis ensuite aller dans la complexité des sujets qui sont associés à cette fabrique de l'info et qui aujourd'hui sont aussi au centre des enjeux éducatifs.
La transparence, montrer la fabrique de l'info, ça passe aussi par, pour les journalistes, franchir la porte des salles de classe et puis aussi ouvrir les portes de leur rédaction. Et c'est un des enjeux, notamment, de la semaine pour la presse et les médias dans l'école.
C'est vrai qu'on a 1800 partenaires sur cette 34e édition et que le Clémy a 40 ans cette année. Et donc le Clémy est une spécificité en France et dans le monde d'avoir au sein même de l'éducation nationale un opérateur en charge de faire travailler ensemble acteurs de l'enseignement et des médias pour cette formation citoyenne aujourd'hui au sein du système éducatif. Donc au plus près des élèves qui vont pouvoir bénéficier de visites dans des médias, mais aussi d'ateliers dans leur classe, d'ateliers d'éducation aux médias, où ce sont les journalistes qui vont venir dans les établissements scolaires, et bien d'autres formats aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec le numérique, et puis tout ce qui s'est passé ces dernières années, l'essor du numérique nous a aussi amené à créer des formats nouveaux qui sont assez performants pour faire aujourd'hui des ateliers en ligne. Donc il y a vraiment une diversité au-delà de ce qu'était la semaine de la presse et des médias dans l'école historiquement et qui perdure aussi, c'est-à-dire acheminer des centaines de milliers d'exemplaires de journaux imprimés et de magazines dans les établissements scolaires. Donc on a une offre aujourd'hui qui est très diversifiée de ces journaux, de ces magazines et une offre numérique avec plus de 200 offres numériques où on va donner des codes d'accès aux enseignants pour pouvoir travailler sur les contenus en ligne des médias.
Revenons un petit peu sur les usages en matière d'information de la part des jeunes. On aurait parfois tendance à se dire la jeunesse est plus intéressée par des sujets de divertissement que des sujets plus durs, par exemple la chose politique. Or, on se rend compte avec la vague de mobilisation contre la réforme des retraites actuellement en France que la jeunesse aussi a envie de s'intéresser à ces sujets et qu'il y a certains des acteurs qui ne sont pas forcément des médias traditionnels, par exemple, qui s'en emparent. J'imagine que vous avez vu ce que fait Jean Massier, par exemple, sur Twitch.
Bien sûr. Et puis Jean Massier, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de viewers sur son émission sur le projet de réforme des retraites, dont mon fils de 14 ans qui m'en a parlé tous les jours. Et donc je vois bien que les usages amènent aujourd'hui à démontrer un intérêt évident de la jeunesse pour l'information, mais du côté des acteurs du Clémy, je crois que nous n'avons jamais douté de cette réalité, puisque nous avons un lien intime avec cette jeunesse qui produit des médias à l'école depuis bien longtemps, quel que soit là encore le format, un journal au collège, de la web radio au collège, au lycée. J'étais hier dans l'académie de Clermont-Ferrand dans un CDI où je voyais le travail d'élèves très différents aujourd'hui en lycée polyvalent, lycée professionnel, où on crée des émissions. Donc évidemment, là-dessus, on voit que les sujets sont parfois de tonalité grave et ancrés au cœur des enjeux de société qui concernent l'environnement, qui concernent la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais qui concernent tout simplement aujourd'hui la géopolitique avec la guerre aux portes de l'Europe, qui concernent effectivement toutes les craintes et les doutes que ce type de contexte fait émerger. Donc oui, il y a un intérêt qui est réel, et puis il y a des formats médiatiques nouveaux qui sont extrêmement intéressants parce que l'on dit les réseaux sociaux en faisant des généralités. Mais d'abord, toutes les plateformes ne se ressemblent pas. Les prescripteurs qui utilisent ces plateformes développent aujourd'hui des choses qui ne sont pas forcément que du tout gratuits. Il y a aussi une économie aujourd'hui de ces nouveaux prescripteurs de l'information qu'il s'agit de connaître. Et puis, pour nous, effectivement, un intérêt extrêmement grand de travailler aujourd'hui avec ces acteurs pour qui touchent la jeunesse, mais pas que. Aujourd'hui, Jean Massier sur Twitch, c'est pas que des ados.
Serge Barbet, directeur délégué du Clémy, nous sommes dans une période où les crises sont multiples, écologiques, sociales et autres, la guerre, vous l'avez dit. Faire le tri entre informations fiables et non fiables à l'ère numérique est compliqué. Et donc, un des axes pour vous, le Clémy, c'est justement de lutter contre les infox et de donner les armes aux jeunes publics pour bien ne pas se faire avoir.
Donner les outils. Les armes, c'est un mot que j'ai entendu une vingtaine de fois ce matin sur un débat sur l'éducation aux médias et à l'information. Et je me méfie de ces mots parce que je crois qu'il est important de revenir pour nous aux fondamentaux, c'est-à-dire d'expliquer que l'éducation est la condition sine qua non à la compréhension de tous ces enjeux, de toutes ces crises qui traversent aujourd'hui notre époque. Et donc, effectivement, notre priorité, c'est véritablement de développer les capacités d'analyse critique des jeunes face à tous les contenus, à ce magma de l'info auquel ils accèdent via les écrans, les smartphones, les plateformes diverses et variées. Et donc, je crois effectivement que là, il y a un enjeu démocratique majeur. J'ai la faiblesse de penser que cette éducation aux médias et à l'information qui s'est beaucoup développée ces dernières années porte ses fruits parce que nous voyons effectivement une jeunesse consciente aujourd'hui de tous ces enjeux, parfois inquiète, mais qui ne l'est pas face à ces crises multiples que nous décrivons et qui est prête à s'engager et à prendre la parole. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut combattre, pour le coup, c'est le conformisme d'une pensée toute faite, prémâchée, qui peut circuler très facilement aujourd'hui, et puis tout ce qui va derrière aussi, ces enjeux, c'est-à-dire les fausses nouvelles, les théories du complot, voire les entreprises de propagande multiples aujourd'hui, à l'ère du numérique, qui disposent des mêmes outils, finalement, que les professionnels pour diffuser de vraies infos. Et donc, c'est vrai que s'informer pour comprendre le monde, dans un monde où effectivement l'info est partout, l'info sur tous les fronts, ce sont des thématiques sur lesquelles nous travaillons ces dernières années qui sont extrêmement importantes.
Donner les outils, donner les clés à la jeunesse, c'est bien, mais il faut que l'éducation aux médias et à l'information soit pour tous les âges. Un de vos enjeux, c'est aussi eh bien, de donner ces clés-là aux familles et pas seulement aux jeunes.
Depuis 2017, on a développé effectivement une démarche très forte en direction des familles. Et nous avons aujourd'hui une activité dans la parentalité numérique avec des partenaires de premier plan comme la Caisse des allocations familiales, comme des médias notamment publics qui nous accompagnent dans la diffusion de campagnes grand public de sensibilisation sur le rapport que nous devons avoir aux écrans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cet univers de ressources développé depuis 2017 a fait des petits. Et nous avons fait plusieurs éditions du guide de la famille tout écran, nous avons fait des kits pédagogiques, nous avons également une BD qui s'adresse aux adolescents, une série web et TV dont nous finalisons, nous préparons la quatrième saison, et puis nous avons un livre, Nos ados et les réseaux sociaux, qui est en cours de parution, qui fait la synthèse finalement à jour de tous les universitaires, chercheurs, professionnels de la santé mentale, qui aujourd'hui aussi se penchent sur ces enjeux là. Et donc, c'est une coédition avec Réseau Canopée et le Clémy. Nous sommes très fiers de ce travail et que nous poursuivons parce qu'effectivement, il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés par ces enjeux. Et donc, ce travail est aujourd'hui, je dirais, une des missions fondamentales du Clémy.
Effectivement, plusieurs études ont montré justement que les diffuseurs de fausses informations n'étaient pas forcément les plus jeunes, mais parfois des hommes d'un certain âge, autour de 50, 60 ans, qui partageaient ça à leur réseau. Et j'aimerais qu'on parle ensemble des états généraux du droit à l'information qui ont été annoncés il y a un certain temps maintenant par le président Emmanuel Macron, qui ont été rappelés par le porte-parole du gouvernement début janvier. Qu'en est-il ? Avez-vous des informations là-dessus ? Et quels sont vos souhaits et vos attentes de ces états généraux en matière d'éducation aux médias et à l'information ?
La parlementaire Violette Spielbout, dont j'ai parlé tout à l'heure, a évoqué ces états généraux du droit à l'information en indiquant que tous les travaux qu'elle avait menés s'ancraient dans le volet parlementaire de cette démarche qui, effectivement, à ce jour, n'a pas commencé, enfin, à ma connaissance, sur le volet opérationnel. Du point de vue du Clémy, évidemment, nous serions et nous serons attentifs à toute évolution et surtout sur le volet de la présence de l'éducation aux médias et à l'information dans la réflexion globale aujourd'hui sur cet enjeu démocratique majeur qui est le droit à l'information, qui est un droit fondamental, un principe fondamental de nos démocraties. Et donc effectivement, nous avons aujourd'hui, et je crois que les assises, la semaine de la presse et des médias dans l'école, tout le travail qui se développe aujourd'hui toute l'année, et puis le travail en France, mais aussi dans des coopérations internationales, nous montre qu'il y a une communauté d'acteurs aujourd'hui extrêmement mobilisés, et il serait inaudible d'avoir des états généraux sans que ces acteurs puissent avoir voix au chapitre, sans que l'éducation, qui est la première marche dans la construction d'une citoyenneté éclairée, soit présente et prise en compte fortement. Donc je crois qu'il y a des attentes dans ce domaine-là, et attendons maintenant de voir si ces états généraux prennent forme ou pas.
Serge Barbet, on a beaucoup parlé de la France, mais il y a un dynamisme de l'éducation aux médias, à l'information à l'international, et notamment dans l'espace francophone. L'EMI est en train de se structurer. Dites-nous en quelques mots.
Je disais tout à l'heure, 40 ans du Clémy, Et dès l'origine du Clémy, la dimension internationale était présente. N'oublions pas que les premières déclarations qui ont donné corps à cette éducation aux médias et à l'information étaient dans des cercles internationaux, pilotés notamment, chapeautés par l'UNESCO. On pense à l'appel de Grunewald. Et donc, effectivement, on a cette tradition de travailler dans des coopérations par-delà les frontières sur ces sujets qui, plus que jamais avec le numérique aujourd'hui, nous confrontent aux mêmes problématiques dans toutes les sociétés, quelle que soit la nature des régimes. Alors, il y a une coopération aujourd'hui qui est à toutes les échelles, une coopération à l'échelle européenne pour commencer, puisque depuis 2017, nous avons, au niveau du Clémy, pris une attention particulière de nous ancrer dans les instances européennes qui ont des politiques en la matière très structurées et qui tendent aujourd'hui, effectivement, à mettre en cohérence les différentes politiques des États membres de l'Union européenne. Nous participons, à titre d'exemple, à un consortium français qui s'appelle De Facto, qui nous lie à l'Agence France Presse et au Media Lab de Sciences Po Paris, avec un quatrième acteur qui est XWiki pour la plateforme en open source qui présente nos travaux en ligne. Et De Facto, c'est le hub français parmi 14 hubs européens aujourd'hui, où nous avons des rencontres inter-hub et donc qui nous permettent d'avoir des échanges de bonnes pratiques et d'expériences sur ce que nous faisons chacun dans nos pays en matière de fact-checking, en matière de recherche, en matière d'éducation aux médias et à l'information. Donc ça, c'est un exemple très concret. Il y a d'autres appels à projets de la Commission européenne ou du Conseil de l'Europe qui préconisent des choses extrêmement précises en la matière. Et puis, il y a ensuite toute la coopération internationale. J'ai cité l'UNESCO qui organise chaque année effectivement la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information qui s'est tenue récemment au Nigeria. Et puis il y a effectivement des coopérations bilatérales ou multilatérales qui viennent des acteurs eux-mêmes, des territoires, de la société civile, des associations, des institutions. Nous avons une expérience très concluante avec les Québécois, par exemple, qui ont créé, sur le modèle du Clémy, un centre québécois de l'éducation média et l'information, le Clémy. Ils sont aujourd'hui présents aux Assises, à Tours. Mais nous avons aussi des projets extrêmement ambitieux, disons-le, avec des partenaires africains aujourd'hui qui regardent ce qui se passe dans nos pays et qui utilisent nos ressources dans des espaces francophone, mais aussi en anglais. Et donc, il y a là un champ de développement, de partenariat et de coopération extrêmement intéressant sur lesquels nous travaillons actuellement. Donc, je dirais que face aujourd'hui, effectivement, au désordre, au pluriel, informationnel, qui traverse nos sociétés, ces coopérations par-delà des frontières sont extrêmement importantes parce que nous n'avons pas forcément les mêmes cultures, nous ne vivons pas dans des contextes forcément identiques, mais en revanche, nous sommes confrontés à des mêmes fléaux, ceux qui tendent à mettre à mal l'équilibre de nos sociétés, la désinformation, la propagande, les discours de haine qui peuvent se propager. Donc, c'est vrai que cette structuration à l'international aujourd'hui occupe une bonne partie de nos activités et c'est pour nous extrêmement enrichissant.
On voit qu'il y a une accélération sur les autoroutes de l'information et de la désinformation. L'EMI réussit-elle à suivre ? Parce qu'on a l'impression que c'est un combat un peu sans fin. Vous, justement, au quotidien, comment vous le sentez, Serge Barbet ?
On l'a dit, nous sommes en pleine semaine de la presse et des médias dans l'école. J'étais hier dans l'académie de Clermont-Ferrand, au lycée polyvalent de Chamalières. Entrer dans un CDI, voir la mobilisation de tout ou partie de l'équipe enseignante, voir les enfants, les adolescents, les jeunes venir prendre la parole au micro, présenter leurs travaux, voir ensuite dans un collège en REP dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand le travail fait avec une enseignante, professeure documentaliste, avec une journaliste de Radio France auprès d'élèves dans des quartiers paupérisés où circulent un certain nombre d'informations bidons ou de propagande sous couvert de religion. On voit le travail de fine couture et je crois qu'il faut toujours être du côté de l'espoir. C'est-à-dire, il faut être du côté de ceux qui font et qui agissent aujourd'hui. Je crois que depuis 40 ans, c'est la vocation du Clémy que de faire. Et donc, je crois que ça irrigue sa façon de penser, ça irrigue les pédagogies qui sont à l'œuvre. On parle de pédagogie active. Et donc, continuons. Et il est vrai que le combat est ténu, mais il ne faut pas relâcher cet effort-là, parce que nous voyons aujourd'hui nos démocraties vaciller. Et donc, je crois que s'il y a une prise de conscience, il faut aussi s'attacher à la réalité du terrain. Et ce terrain, aujourd'hui, est lui aussi mobilisé.
Merci Serge Barbet.
Merci à vous.
C'était Serge Barbet, directeur délégué du CLEMI. Comme chaque semaine, on va entendre une voix parmi les centaines de blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Mondoblog Audio nous emmène cette semaine à Madagascar.
Salut, moi c'est Fence Sergia. J'habite à Antananarivo, à Madagascar. Et mon blog, c'est fencesusergia.mondoblog.org. En ce moment, pour les musulmans, c'est le mois sacré de Ramadan. Dans mon article audio, je vais vous raconter ce mois de jeûne et de privation à travers l'expérience de ma copine Sabria, qui est musulmane. Si comme moi, vous pensez que Ramadan rime uniquement avec jeûne, écoutez et vous verrez que c'est bien plus que cela. Je suis chrétienne catholique, je ne connais pas beaucoup de musulmans et j'ai une connaissance assez vague du Ramadan. Mais je suis quand même curieuse d'en savoir plus. J'aurais bien voulu pouvoir m'incruster dans une mosquée. Seulement, je ne voudrais pas passer pour une voyeuse. Et je ne voudrais surtout pas m'attirer la colère d'Allah. C'est pourquoi j'ai demandé à une amie musulmane, Sabria, de me parler du Ramadan. Elle était d'accord pour répondre à mes questions. Le Ramadan est une période très importante pour les pratiquants musulmans. Un mois pendant lequel ils se privent de nourriture, de boissons et autres plaisirs corporels de l'aube jusqu'au crépuscule. En temps normal, le jeûne du Ramadan est obligatoire à partir de l'âge de la puberté, ou parfois un peu plus tôt. Mais quand j'ai appris que Sabria a commencé le jeûne à l'âge de 3 ans, je ne pouvais pas la croire. À cette époque, elle a juste fait 5 jours de jeûne. Apparemment, le fait de commencer tôt a eu un effet positif. Sabria m'a dit que quand elle a commencé à vraiment jeûner tout le mois de Ramadan, ça s'est bien passé parce qu'elle était déjà habituée. Au fil du temps, année après année, elle augmentait le nombre de jours de jeûne. C'est sûrement la bonne technique. J'étais aussi curieuse de savoir ce qu'elle fait quand elle est au collège, pendant que ses copines mangent à l'heure du déjeuner. Sa réponse m'a encore surprise. Soit elle se met dans un coin avec son portable, soit elle reste avec ses copines et elle discute. Ça ne la dérange pas vraiment en fait. Je la relance encore avec une question plus subtile, pour lui faire avouer ne serait-ce qu'un tout petit bout de péché. Ça ne t'est jamais arrivé de craquer, même pas une petite gorgée d'eau? Mais rien n'y fait, Sabria ne cède pas. Quand elle était petite, oui, mais depuis, non. Vaine tentative de ma part pour la coincer. J'insiste encore un peu. Avec le jeûne et la privation, on devient souvent de mauvaise humeur, on est irritable. Ça ne lui est jamais arrivé de s'énerver pendant le Ramadan? Non, pas question pour elle de s'emporter. Sabria m'explique que le Ramadan est une belle période, synonyme de paix et de réconciliation, où chaque musulman fait un effort pour être un bon musulman. Décidément, je n'arriverai pas à la coincer. J'abandonne. Quand je lui ai demandé de me donner sa propre définition du Ramadan, sa réponse était si sincère et si complète que je n'en revenais pas. Ça m'a vraiment fait réfléchir en retour sur le degré de ma foi. Donc elle me dit « Pour moi, le Ramadan, c'est un mois béni pendant lequel les musulmans se dévouent à Dieu et lui consacrent un maximum de leur temps. C'est un mois béni, sachant que les péchés sont pardonnés et la porte de l'enfer et du diable fermée. Le Ramadan, c'est aussi une période de l'année où tu compatis pour les plus démunis, car tu vois ce qu'ils éprouvent au quotidien quand tu jeûnes. Et surtout, tu te sacrifies et t'abstiens au maximum de tes désirs. Cette période est aussi faite pour t'enrichir dans la connaissance de ta religion et pour augmenter ta foi. Et c'est aussi une période où les familles musulmanes se rapprochent chaque soir pour casser le jeûne autour d'un repas ou lors de la fête de l'Aïd el-Fitr à la fin du Ramadan. Sabria me dit aussi son souhait le plus cher pour ce Ramadan. Elle voudrait que l'idée de souffrance ou de difficulté soit enlevée de la tête des gens parce que le Ramadan, ce n'est pas uniquement se priver de manger et de boire et donc de galérer. C'est avant tout une opportunité, une chance que Dieu offre aux musulmans de se repentir. Elle termine en me disant « C'est un moment qui nous permet de continuer sur la bonne voie. J'espère que par la bénédiction du Ramadan et par la grâce de Dieu, une bouffée de bonheur soufflera dans tous les foyers. » Musulman ou pas, je pense que ces réflexions sont une occasion pour tout croyant de renouveler sa foi envers Dieu. Allez, Joyeux Ramadan à tous.
Mondoblog.org.
L'Atelier des médias était cette semaine enregistré aux Assises internationales du journalisme de Tours. Simon de Creuse était à la réalisation. Si vous aimez cette émission, je vous invite à vous abonner au podcast pour l'écouter dès le samedi matin sur toutes les applications d'écoute. Spotify, Apple Podcast, Deezer, RFI Pure Radio et j'en passe. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier@rfi.fr ou un message sur Twitter. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.